Pourquoi t'as pris ton revolver pour du porte-à-porte?
C'est quoi le suspect numéro un? Un gendarme? Alors je suis prudent. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale.
J'arrive.
Que vous reconnaissez cet homme?
Non, je suis désolé.
Plein de gêne. Ça vous dit rien?
Non.
Eh bien, la prochaine fois, je viserai le cœur et personne n'en saura rien ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de gendarmes, d'avocates, de violeurs, de jeunes filles, de l'Oise, de la Creuse et même de la Grande Motte. Avec Guillaume Canet, gendarme, tueur en série dans La prochaine fois, je viserai le cœur de Cédric Anger. Portrait d'un acteur fasciné par la série noire des années 70 et la figure de Patrick Devers, Benoît Lagan.
Guillaume Canet, qui a longtemps voulu être acteur pour passer à la mise en scène, renoue dans ce film avec une des facettes de son art dramatique pour incarner un personnage double et trouble.
19h35, plateau suspense avec Sylvie Granotier qui signe Personne n'en saura rien, un thriller psychologique et judiciaire qui renverse les rôles entre bourreau et victime. Benoît Lagan, toujours.
15e roman pour cet auteur passionné par les personnages à multiples personnalités, la double identité, le mentir vrai. Pas étonnant pour une écrivaine formée aux arts dramatiques.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfès que l'on ouvre bien sûr ce soir et comme toujours avec le son du jour.
En un mois, 30 000 soldats meurent pour prendre cette colline d'Artois, Notre-Dame-de-Lorette, un site stratégique qui commande l'accès aux mines du Nord. En quelques jours, sous les bombes et la mitraille, le plateau se transforme en charnier. 100 ans ont passé, sur le sommet figure maintenant cette grande ellipse, sur ses parois près de 600 000 noms. Ce sont les morts de la Grande Guerre tués dans le Nord-Pas-de-Calais.
Bonsoir Zoé Sfès.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour, à peine quelques minutes.
À peine quelques minutes.
Alors, on se croirait sur BFM.
Alors, on se croirait presque sur BFM, mais nous sommes sur France Culture, donc je ne sais pas si vous avez entendu, on évoquait une ellipse. C'est donc cet anneau de la mémoire, un nouveau mémorial dédié aux victimes de la Grande Guerre, le premier mémorial mondial, puisque les 580 000 noms qui y sont inscrits sont les noms de soldats venus du monde entier. François Hollande l'a donc inauguré il y a quelques minutes, il y a une heure, on va dire, en lançant un message. Message d'espérance.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour et l'on part en Iran, où le nouveau gouvernement du président Hassan Rouhani tente de défendre une ouverture culturelle. Aujourd'hui, le ministre iranien de la Culture a défendu devant le Parlement sa politique en matière de censure au cinéma, en expliquant qu'elle n'outrepasse pas les lignes rouges du régime.
C'est dur à dire, hein. Oui, car oui. Depuis le début du mois d'août, 89 films ont reçu l'autorisation d'être diffusés par le ministère de la Culture en Iran. C'est beaucoup, seulement 8 ont été censurés et plusieurs de ces 8 films avaient reçu pourtant l'agrément du ministère. Mais les députés, qui eux sont toujours conservateurs, avaient beaucoup protesté et le ministère avait fini par faire marche arrière. Le porte-parole du ministère a quand même assuré aujourd'hui qu'il ne comptait pas obéir aux lignes définies par des factions, par des partis, car l'Iran, depuis la révolution de 79, est une terre exceptionnellement riche en matière de cinéma, comme l'explique Agnès De Victor, maître de conférence à l'université Paris 1 et spécialiste du cinéma iranien.
On est dans un pays qui devient une petite bulle préservée d'Hollywood, si je puis dire, puisque les importations de films étrangers sont extrêmement contrôlées, elles ne sont pas interdites, mais très très contrôlées, ce qui va aider une production nationale à se développer, mais surtout parce que l'État va soutenir cette production nationale, non pas en la nationalisant, mais en permettant à un tissu de producteurs privés et d'institutions publiques très diversifiées qui appartiennent à des tendances différentes à l'intérieur de l'État iranien de travailler ensemble. Pourtant, ce cinéma, il est face à des difficultés majeures, à la censure.
Le paradoxe, c'est que cette richesse du cinéma iranien et cette politique volontariste du gouvernement coexistent avec la censure.
Oui, une censure extrêmement forte dès 79 et qui, jusqu'aux années 2000, n'a fait que se renforcer. Agnès De Victor.
Il y a eu, après la révolution de 1979, une censure politique très forte contre des tendances politiques hostiles au régime de la République islamique, mais très progressivement, cette censure s'est centralisée, s'est focalisée sur la question du contrôle des mœurs à l'écran. Ça rappelle un peu le code ACE américain dans les années 20, mais là, c'est nettement plus fort. Et cette censure va atteindre un degré inégalé dans l'histoire du cinéma, puisque progressivement, tout va être contrôlé, c'est-à-dire les couleurs. Il va y avoir des couleurs interdites, des personnages féminins positifs ne peuvent pas s'habiller en rouge, par exemple, dans les années 80. Les lumières vont être contrôlées, on ne met pas de lumière tamisée. Surtout, le problème va être la question du foulard. Une femme devra toujours être montrée en foulard. ce qui est absurde, puisque dans la réalité iranienne, une femme, chez elle, ne porte pas son foulard.
Mais les choses changent avec l'arrivée du nouveau gouvernement réformateur.
Et oui, et pas étonnant d'ailleurs que les tensions entre le Parlement qui toujours, lui, est conservateur et le gouvernement qui se veut réformateur se cristallisent sur la culture, comme l'explique Serge Michel, journaliste au Monde et auteur d'un livre « Marche sur mes yeux, portrait de l'Iran d'aujourd'hui ».
Et vous avez donc un président Hassan Rouhani modéré à tendance réformatrice qui s'oppose à un système globalement conservateur et dirigé par le guide suprême Ali Khamenei. La culture est un lieu traditionnel d'affrontement entre réformateurs et conservateurs en Iran. Les conservateurs ont toujours considéré que l'offensive occidentale supposée était avant tout culturelle et que c'est par les valeurs culturelles, par les produits culturels, l'Occident tentait de pervertir les valeurs pures de la République islamique. Et de l'autre côté, les réformateurs ont tendance à utiliser la culture comme un gage et aux gens qui les ont portés au pouvoir pour montrer leur ouverture. Parce que c'est difficile de créer l'ouverture sur d'autres sujets, notamment tout ce qui est droit des femmes, etc. Par contre, c'est plus facile pour un gouvernement de montrer que tout d'un coup, on autorise des nouveaux films, des nouveaux livres.
Pour autant, le but du nouveau gouvernement n'est pas d'abolir totalement le système tel qu'il est.
Oui, puisque déjà, même sous le gouvernement d'Ahmadinejad, la censure avait déjà commencé à se relâcher un petit peu. La priorité de ce nouveau gouvernement semble surtout de soutenir la production cinématographique. Agnès de Victor.
Aujourd'hui, le système évolue. On peut faire des close-up sur des regards de femmes. La censure est beaucoup moins regardante sur les matières des costumes, sur le maquillage. On peut aborder aussi des questions qui jusque-là avaient été écartées des écrans, d'amour parallèle. Mais ce contrôle existe encore, même si je pense que le gouvernement actuel, et notamment le ministre en charge du cinéma, qui est un homme de culture, qui est quelqu'un de remarquable, cherche à faire évoluer le système. Je pense qu'il n'est pas là pour l'abolir, il est là pour penser à d'autres normes et surtout pour maintenir une production cinématographique telle qu'elle l'a fait depuis ces 35 dernières années.
Et d'ailleurs, le porte-parole du ministère de la Culture indique que les arrêts de diffusion qui frappent ces 8 films censurés ne sont que temporaires, qu'ils pourraient être revus. Cela concerne notamment le film I'm Not Angry, qui évoque les manifestations de juin 2009 dans le pays et qui, même s'il est censuré, a déjà été sélectionné dans plusieurs festivals à travers le pays et même déjà montré.
Tout de suite, on passe aux brèves, Zoé.
Et l'on ouvre avec des brèves spéciales 11 novembre, des brèves un peu exotiques avec la chanteuse R&B Nicki Minaj qui est accusée de faire l'apologie du nazisme dans son nouveau clip Only. Elle multiplie les références au Troisième Reich avec un décor en rouge et noir, avec d'immenses bannières qui recouvrent des bâtiments. La chanteuse dirige une armée de milliers de soldats avec tanks, fusils qui tous portent un brassard avec ses initiales dans une typographie qui rappelle l'esthétique nazie. Une pétition circule pour qu'elle retire son clip.
Le musée d'art du comté de Los Angeles récupère une donation estimée à 500 millions de dollars.
C'est la donation la plus importante jamais reçue par le musée. Elle est constituée de 47 œuvres impressionnistes et modernes réalisées entre 1970 et 1930. C'est le magnat de l'audiovisuel Jerry Perrincchio qui a fait cette donation pour rendre à la ville de Los Angeles qui a fait sa fortune ce qu'elle lui a donné.
Un étudiant égyptien arrêté parce qu'il lisait le livre 1984.
Oui, c'est une des tensions qui règne dans le pays. Des policiers voulaient arrêter un étudiant qu'ils accusaient de les avoir filmés. Problème, le seul portable qu'il avait sur lui n'avait pas de batterie, mais ils ont quand même trouvé un prétexte pour l'arrêter puisqu'il était en possession d'un exemplaire de 1984 de George Orwell, roman qui dénonce un régime totalitaire imaginaire, et il a donc été arrêté pour cela.
Et la dernière.
C'est une histoire d'audace, d'absurdité. C'est aussi l'histoire d'une petite déclaration d'amour à une certaine expression idiomatique française. Une histoire surtout de performance, comme on les aime. Et je regrette que Manou Farine ne soit pas dans la place.
Manou Farine, c'est elle qui est en charge de l'art contemporain, voilà, des dispositifs dans l'émission.
Vous connaissez peut-être l'artiste italien Sven Sachelbern. Il est né en 87, il est tout jeune, dans la région montagneuse de Trentin, au Adige. Cette terre des auteurs lui a donné un goût pour la performance extrême. Alors il a notamment mangé des champignons vénéneux, passé 24 heures dans sa chambre avec une vache, ou encore coupé les branches d'un arbre sur lequel il était assis. Et voilà, cet hiver, il est l'invité du palais de Tokyo et il a voulu, à Paris, vivre une expression, vivre lui-même cette expression bien connue. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, ce qui en général veut dire que c'est faire quelque chose d'impossible, mais impossible n'est pas Sven Schalselberg. Il a donc, dans le cadre de l'exposition Inside au Palais de Tokyo, il va donc chercher une aiguille
dans
qui aura
une botte
préalablement
de foin.
Été glissée par le président du Palais de Tokyo, Jean Deloisy,
qui est aussi producteur sur France Culture.
Voilà, dans une magnifique petite botte de foin.
Petite
et tout cela, petite pas
déception.
Petite. Je l'ai vu plusieurs mètres de haut, et il a deux jours pour la trouver. Le fera-t-il ou pas ? Mystère.
Thank you. Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre dans sa globalité de la part de nos deux invités, Guillaume Canet, Sylvie Granotier? Sylvie Granotier?
Ah bah sur le cinéma iranien, oui, qui a produit des réalisateurs. Je pense à La Recherche d'Eli, comment il s'appelle, j'ai un trou sur son nom, mais j'avais vu aussi les Chats persans.
La Séparation aussi, qui a fait.
Ouais. Séparation. La Séparation, voilà, c'est ça, j'arrive plus à retrouver son nom. On a l'impression qu'il invente une façon de faire du cinéma comme personne avant lui. Et puis j'avais vu Les Chats persans où on se dit, mais.
Comment
on
ils
a
ont
pas
fait
idée. Non, mais que ce monde-là existe. On a une image caricaturale de l'Iran et tout d'un coup on voit que c'est rock'n'roll, qu'il se passe des trucs la nuit, qu'il y a une jeunesse. Voilà. C'est un pays où j'ai très très envie d'aller.
Guillaume Canet, est-ce qu'il y a une autre information qui a retenu votre attention?
Vous voulez parler de la botte de foin?
C'est vous qui en parlez manifestement.
Mais c'est très bien s'il a que ça à foutre. Moi, c'est très très bien.
Parfait. C'est étrange parce qu'on a essayé de voir... on sait que vous êtes rencontrés précédemment, parce qu'on l'a appris en début d'émission. On peut savoir dans quel cadre vous vous connaissez tous les deux, Guillaume Canet et Sylvie Granotier?
Nous avons joué ensemble dans un téléfilm de Gérard Marx il y a bien longtemps maintenant.
Sur TF1?
Sur TF1, qui s'appelait Electrochoc. Et qui n'a jamais été diffusé d'ailleurs, parce que je crois que...
Pour des raisons quasi politiques.
C'est-à-dire parce que vous jouiez un néo-nazi, je crois, Guillaume Canet. Vous étiez sa mère, Sylvie Granotier.
Voilà. Et Jacques Perrin était son père. Nous étions séparés. Et ce père de gauche, libéral, etc., découvrait que son fils qu'il n'avait pas élevé selon ces valeurs-là, était effectivement dans un groupuscule néo-nazi.
Et pourquoi TF1 n'a pas diffusé le film, alors? Et vous en donnez des explications,
pas,
j'imagine.
Non, à l'époque, moi, je sais pas. Puis j'étais jeune comédien, je démarrais, donc j'ai pas essayé d'avoir plus d'informations que ça. Je sais pas. Dommage, en tout cas, de payer toute une équipe et de passer autant de temps à faire un film pour qu'il soit pas diffusé.
Tout le monde met beaucoup d'énergie dans un film. En l'occurrence, c'est ce que je rappelais à Guillaume tout à l'heure. Comme ça n'arrive pas tous les jours, mais on avait deux trois scènes ensemble et j'avais été vraiment bluffée au point que je vivais avec Jacques Bonafé à l'époque et je lui avais dit il joue au théâtre ce garçon, faut qu'on aille le voir parce qu'il avait une manière, les musiciens ont ça manque parfois aux acteurs, ils jouent en s'écoutant, ils s'écoutent et ils réagissent à ce que l'autre produit, vous savez quand on voit des jazzmen improviser ensemble et tout ça, et il avait cette qualité là qui chez un jeune acteur est souvent inhabituelle, particulièrement en France, et l'impression que une petite note un peu différente et tac, il réagissait au quart de tour. Et du coup, après, je le suivais. Ouais.
Elle est restée ma maman.
Ouais.
Merci beaucoup, en tout cas.
Le rendez-vous.
Bonjour, monsieur. Gendarmerie nationale.
J'arrive.
Vous reconnaissez cet homme?
Laurent Goumard.
Plateau Autostop avec vous, Guillaume Canet, scénariste, réalisateur. Vous serez demain à l'affiche du troisième film de Cédric Angers, La prochaine fois, je viserai le cœur. Vous y interprétez un gendarme tueur en série de jeunes autostoppeuses, d'après l'histoire de celui qu'on a appelé le tueur de l'Oise dans les années 70. On écoute d'abord la bande-annonce.
Vous savez qui c'est?
Mon collègue et moi, nous voulions savoir si vous aviez un signalement à nous donner de votre agresseur. Il était comment? Il était vieux? Alice, vous comprenez, on a besoin d'éléments.
Je comprends.
Alice, je vous promets qu'on va tout faire pour arrêter celui qui vous a fait ça.
Et le tueur?
C'est celui qui bute les autostoppeuses. Tu soupçonnes quelqu'un?
Non.
Attends, qu'est-ce que tu fais?
Je vais te faire mal.
Attendez,
c'est toi.
Ne
crie pas.
Ne regarde pas.
Pourquoi il tue comme ça?
Parce qu'il est fou. On n'est rien. Nib, personne.
Flippant. Ouais. Guillaume Canet, je lisais que c'est la dualité du personnage à la fois gendarme et tueur en série qui vous avait intéressé en premier lieu à la lecture du scénario. Comment vous avez travaillé cette schizophrénie? C'est-à-dire, en termes de jeu, quelles ont été les indications de Cédric Angers? pour construire un double personnage ?
Bah, y a un accord d'abord qu'on s'est passé tous les deux. Moi, je souhaitais énormément, en lisant le scénario, ce qui m'a surtout frappé, c'est la sincérité du personnage dans ses deux vies, dans sa dualité. C'est-à-dire que quand il est gendarme, il est extrêmement professionnel et un très bon gendarme. Il ne joue pas au bon gendarme. Et il était d'ailleurs, aux yeux de tous ses collègues, de ses supérieurs, vraiment comme quelqu'un de très rigoureux, très volontaire, qui motivait les troupes, qui arrêtait pas de dire « on va l'arrêter, ce salaud ». Il enquêtait
sur
lui-même. Mais donc, il était très sincère. Moi, c'est ça qui m'importait beaucoup. Et dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien de tueur, moi, ce qui m'a séduit dedans et ce que j'ai demandé à Cédric, c'est de mettre en avant la souffrance qu'il pouvait ressentir à passer à l'acte. Et c'est ça qui m'intéressait. C'était pas en faire un tueur sanguinaire, mais quelqu'un qui, à partir du moment, a décidé d'être un tueur en série parce qu'il a été refusé aux forces spéciales, aux commandos, parce qu'il estime que la gendarmerie sont des nuls, qui veut montrer à tout le monde qu'il y a une haine contre la société, qu'il y a tout ça. À partir du moment où il a fait le pas, il peut plus faire marche arrière. Et là, en fait, on voit un homme qui est terrifié à l'idée de passer à l'acte, ému. D'ailleurs, le titre du film n'est pas un hasard. Quand il dit « La prochaine fois, je viserai le cœur », il dit ça dans une lettre où il est une lettre vraiment d'un tueur sanguinaire. Alors que cette phrase de dire « La prochaine fois, je viserai le cœur », il a quand même une femme à côté de lui, à bout de bras. C'est un gendarme, il s'est très bien tiré. C'est très facile de viser le cœur à ce moment-là, mais il n'y arrive pas. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, c'était de mettre l'accent là-dessus. Donc, dans le travail qu'on a fait avec Cédric, c'était travailler sur cette rigidité en tant que gendarme, ce côté ferme, fermé, froid, ne montrant aucune expression, aucune émotion. Et lorsqu'il est dans sa vie civile, ce personnage s'abîme, quoi, se met à devenir fragile, quoi.
Sylvie Granotier, je pense que ça fait écho à votre travail de romancière, de polar.
Oui, mais ça, c'est un point. Ça m'a toujours frappé, le fait d'être actrice aussi. Je sais que j'aborde mes romans par le biais des personnages, et un acteur digne de ce nom prend son personnage en charge totalement. Il ne peut pas être dans le jugement. Et je pense que quand on écrit, c'est pareil. On ne peut pas dire c'est un dingue. Ça veut rien dire. On peut le jouer qu'en le prenant en charge tel qu'il est, c'est-à-dire sincère. Et moi, quand j'écris, j'essaye de comprendre ce qu'il y a derrière. Et dès le moment où on essaye de comprendre, que ce soit en l'occurrence dans mon roman, le violeur ou la jeune fille qui est sa victime, les deux m'intéressaient parce que les deux ont agi en humain. Et moi, j'ai envie de comprendre quel est cet humain, quoi.
D'ailleurs, dans la démarche, dans la démarche dans la narration de Cédric Anger, c'est pas une enquête, hein. C'était vraiment un réel portrait. On est dans les coulisses du meurtrier, en fait, du tueur. On est tout le temps avec lui, presque complice. Et c'est marrant parce qu'on a présenté le film dans quelques salles et on a eu la réaction de certaines personnes qui disaient c'est très étrange parce que on a de l'empathie pour le personnage. C'est-à-dire qu'on se met, en fait, quelque part, à ne pas avoir envie qu'il se fasse arrêter quand il est poursuivi.
Par lui-même, exactement.
Voilà. Ouais. Et il y a donc, c'est dans la narration aussi, dès le départ, on sait qui il est, on sait. Donc voilà, c'est très particulier dans la narration, quoi.
Benoît Lagan.
Cédric Anger explique qu'il n'aime pas trop les répétitions, qu'il n'aime pas non plus faire beaucoup de prises et qu'il est très à l'écoute des comédiens. Vous-même, vous êtes plutôt première prise ou vous avez besoin d'en avoir plusieurs ?
Je déteste répéter. Et sur les films que je réalise, il n'y a jamais de répétition. J'adore filmer les répétitions parce que je trouve qu'il se passe des choses toujours assez particulières. Même si ce n'est pas forcément la bonne prise, il se passera quelque chose. Et je n'ai jamais aimé l'idée d'enfermer un acteur dans des places géographiques. Je vais leur dire, voilà, là, t'as l'endroit. De pouvoir laisser les acteurs libres. Et moi, en tant qu'acteur, c'est vrai que j'ai ce truc que j'aime bien, c'est de pouvoir... Vous savez, quand on est sur un plateau aussi, on a un premier public qui est les techniciens, qui sont des gens qui sont autour, qui sont, quand ils sont intéressés par ce qu'on fait, et c'est quand même souvent le cas, c'est notre premier public.
Et vous le sentez ?
Oui, on le sent, et vous n'avez pas envie de leur donner déjà le sens, l'essence de la scène de manière complètement technique, comme ça, en disant voilà, et puis en lisant son texte en répétition. Et c'est vrai que moi, ça m'a toujours abîmé, en fait, dans mon jeu. Et j'aime l'idée de pouvoir, dès la première prise, faire quelque chose et avoir ce naturel, en tout cas, ou cette fraîcheur, quoi.
Ça vous vient du théâtre ?
Peut-être, oui, peut-être du théâtre. Et je pense, je ne sais pas, j'ai toujours eu ce j'aime pas le réchauffer, quoi.
Sylvie Granotier, vous qui avez été comédienne, vous comprenez aussi cette...
Ah oui,
cette façon de travailler.
Surtout que je me rends compte aussi comme spectatrice, je trouve que les films trop tenus et trop cadrés ne respirent pas. Et la vie, elle vient de l'accident. Alors je pense que ça n'a strictement rien à voir, mais j'ai revu récemment un film de Coris Maki où il y a un de ses personnages, un incongru, comme il laissait les dessiner, qui descend d'un bus et sa jupe est prise dans sa culotte. Et je suis sûre que c'était un accident, que ce n'était pas volontaire. Et c'est juste, c'est un petit accident de la vie et tout d'un coup, la scène... Voilà, prend une autre ampleur.
Guillaume Canet, je sais que vous préparez beaucoup vos rôles, mais ça n'a pas toujours été le cas, notamment à vos débuts. Je disais que vous ne souhaitiez pas être acteur. C'était pour vous une simple porte d'entrée pour faire ensuite de la réalisation. À quel moment, avec quel film ou avec quel réalisateur, vous avez compris que la préparation d'un personnage était importante ?
À partir du moment où j'ai travaillé avec des acteurs, en fait. À partir du moment où j'ai fait mon premier film, Mon Idole, qui était peut-être un travail un peu plus conséquent que les courts-métrages que j'avais pu faire. Mais c'est la première fois que je me suis rendu compte que j'ai été très exigeant envers les acteurs en leur demandant de faire un travail de préparation sur les personnages que je ne faisais absolument pas moi en tant qu'acteur avant, parce que j'étais passé par une école de théâtre et par l'idée d'être acteur tout simplement au départ parce que je voulais être metteur en scène, et je me suis dit, si je veux diriger les acteurs, il faut que je comprenne le métier d'acteur. Bon, il s'est avéré que je me suis retrouvé au théâtre et à avoir des rôles en tant qu'acteur qui m'ont permis de payer ma pellicule pour faire mes premiers films. Mais c'est à partir de mon premier film que je me suis rendu compte que voilà, je ne faisais pas ce travail-là. Et c'est après Mon Idole que j'ai commencé à appréhender un peu les personnages d'une autre manière, en fait.
Je me demandais aussi, dans votre parcours, quels avaient été les cinéastes qui ont pu avoir une influence sur votre jeu, sur votre façon, plus tard même, de diriger les acteurs. Si, par exemple, Zulawski, qui vous avait dirigé dans La Fidélité en 2000, avait été important.
Oui, évidemment, par la passion, l'énergie, le jusqu'au boutiste et la folie même, la folie gentille, hein, mais un être totalement passionné, habité, d'une grande, grande intelligence.
J'imagine que là, il fallait beaucoup répéter. Est-ce qu'il vous a abîmé ?
Non, répétait pas tant que ça, mais il était très... Il arrivait dès le matin à me mettre dans un état qu'il souhaitait.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, je me rappelle d'une scène particulière où j'étais en train de réviser mon texte. Et il arrive et il me dit, on était dans un bar, et il me dit « Ah, c'est bien, t'apprends ton texte, ça sera pas comme hier. » Alors que j'avais pas du tout eu de problème de texte la veille. Mais il savait ce qu'il faisait, quoi. Il me cherchait. Et il y avait une scène où j'étais censé être très très en colère au bar. Et il m'a fait monter la pression comme ça pendant une petite heure, et ça a marché parce que j'étais très très en colère.
Benoît. Pour la prochaine fois, Je viserai le cœur, vous expliquez que c'est la lecture du scénario qui vous a convaincu. Or, vous êtes généralement assez critique envers les scénarios que vous recevez. Quelle critique principale faites-vous quand vous recevez un scénario ?
La première critique, c'est d'abord de voir si ça me parle. Malheureusement, des fois, au bout de 10 pages, soit on a l'impression d'avoir déjà vu cette histoire... mais que ça m'intéresse pas en tant que spectateur. Moi, je choisis beaucoup mes films en tant que spectateur, c'est-à-dire de me demander d'abord si j'ai envie d'aller voir ce film. Après, je pense au personnage, mais d'abord le film, puisque de toute façon, les gens vont pas voir un film pour voir un personnage, ils vont voir une histoire. Et donc ça importe beaucoup pour moi. Et ensuite, la manière dont c'est dialogué, je porte beaucoup d'importance. Enfin, j'attache beaucoup d'importance à ça parce que c'est vrai qu'on a tendance toujours à trop faire parler les personnages. Et c'est quelque chose dont j'ai beaucoup appris avec François Cluzet, par exemple, qui m'a rayé des dialogues, des phrases.
Que vous avez fait tourner à deux reprises, hein, dans Les Petits Mouchoirs et dans Ne le dites à personne.
Exactement. Et c'est vrai qu'il y a cette économie dans le mot que je trouve très intéressant et essentiel, finalement, à la subtilité, en fait.
Qu'est-ce qu'il vous a appris, François Cluzet, sur vous, puisque vous l'avez fait tourner deux fois ? Je sais qu'il vous fascine. Qu'est-ce qu'il vous a appris sur vous, acteur et metteur en scène ? Guillaume Canet.
Il m'a appris beaucoup. Il m'a appris beaucoup par son talent, sa ténacité, sa rapidité, en fait, à comprendre les choses. Et son instinct, en fait, moi je travaille beaucoup à l'instinct et je pense que ça a été une confirmation, en fait, en rencontrant cette personne. Je reprends souvent cette phrase d'Audiard qui est « Heureux soient les fêlés car ils laissent passer la lumière ». Et c'est vrai que François, il a cette faille d'où jaillit vraiment ce talent, ce génie. Et on a toujours envie d'aller regarder à l'intérieur et il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur. Mais ça bouillonne par passion, en fait. Et je pense que faire ce métier sans cette passion, c'est très difficile. Parce qu'au bout d'un moment, on peut devenir sec en faisant ce métier, parce qu'on donne beaucoup. Et donc il faut derrière un volcan vraiment qui soit là toujours dans le travail, parce que sinon ça s'épuise vite et puis on devient inintéressant, si je puis dire. Mais en tout cas, il m'a appris ça. Il m'a appris que ça ne servait à rien d'aller sur un plateau si on n'avait pas à donner, en tout cas.
Guillaume Canet, comme à tous nos invités, on vous a demandé d'apporter un son personnel qui vous a marqué. Voici ce que vous avez choisi. Étrange. Identification de ce son, Guillaume Canet.
C'est le brame des cerfs. Alors moi, j'ai grandi en forêt de Rambouillet, donc j'ai passé mon enfance, mon adolescence à aller dormir au pied des arbres, écouter les cerfs bramer et se battre. Et c'est des moments assez inquiétants, assez fantastiques. Et ce qu'il y a de complètement dingue, c'est que le personnage que j'interprète dans le film, ouais, passait des nuits entières à aller approcher les cerfs et avait un rapport à la nature très très fort. Et c'est vrai que les proches qui ont pu voir le film ont dit « Oh, t'as quand même réussi à caser des cerfs. »
Mais oui, c'est ce qu'on se dit justement.
Alors que j'ai rien à voir là-dedans, que c'était complètement dans le film. Et d'ailleurs, le personnage s'est fait arrêter cette fameuse nuit, cette dernière nuit avant l'arrestation, a voulu emmener ses collègues en fait en forêt, à un endroit à côté des douves pour leur montrer une harde de cerfs et biches. Et c'est un moment magique qu'ils décrivent, en fait, quand on les interroge, comme un moment très étrange, parce que lui était en sueur, pas bien, il sentait l'arrestation venir, il était 5 heures du mat, et il les emmenait voir des cerfs et biches, quoi. Il y avait un moment comme ça totalement poétique et fantastique dans le film, d'ailleurs. Ouais. Et donc voilà, je trouvais que c'était un son totalement...
personnel, pour le coup.
Voilà.
À propos de son, justement,
oui,
Lagan.
Et de ce brame du cerf, il est dans la playlist que vous êtes conçue pour préparer le personnage, parce que vous avez cette habitude de donner, notamment quand vous réalisez à vos comédiens, une playlist de leur personnage. Vous le faites donc naturellement quand vous préparez un rôle. Qu'est-ce que cela vous permet d'appréhender plus précisément du personnage ?
L'ambiance, le rythme, la musique m'a toujours donné ça, l'émotion et le rythme. Et c'est toujours intéressant, je disais, quand vous mettez de la musique dans les oreilles, dans la rue, vous regardez les gens passer, selon les musiques, ils vont passer différemment. Et vous pouvez vous imaginer toutes sortes de choses avec cette musique. Et c'est vrai que moi, sur un plateau, ça m'a toujours intéressé d'avoir cette ambiance, ce son. Alors, il y avait le brame des cerfs, il y avait des morceaux des années 80, pour être plongé vraiment dans le top 50, si
Mike
je puis dire, de Mike Brandt, de Christophe, de tous ces morceaux-là. Parce que j'avais envie de me plonger dans cette ambiance-là, quoi. Mais voilà, après, bon, chacun a sa manière de travailler. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose... On parlait tout à l'heure, justement, de la musique et de l'oreille. C'est vrai, mais ça m'est arrivé moi-même de leur proposer aux acteurs, en fait, d'avoir la musique dans l'oreille en jouant des petites oreillettes, en fait, et que... Moi, j'imagine une scène sur un certain rythme, sur une certaine émotion, et d'avoir la musique dans l'oreille et de jouer sur la musique.
Vous avez ça dans quel film, par exemple ?
Sur Les Petits Mouchoirs, sur Blood Ties, sur des scènes comme ça. Et c'est marrant parce que certains acteurs, même sur Blood Ties, n'avaient jamais fait ça auparavant et ont adoré le principe.
Comment vous avez mis au point ce dispositif ?
Bah, c'est simplement des petites oreillettes.
Non, mais ça, j'ai bien compris. Mais à partir de quand vous avez conçu ces playlists, en fait, pour vous et pour les acteurs ?
Bah, à partir du moment où l'écriture se fait en musique, pour moi. J'écris en musique et je peux passer d'une scène à une autre selon la musique qui est sur l'aléatoire. Et cette musique se retrouve après sur le plateau parce que j'ai envie même que le technicien qui va pousser la caméra sache dans quelle émotion la caméra doit bouger, en fait. Voilà, bon, c'est un peu mon truc perso. Mais...
Retour au cinéma muet.
Oui,
non, mais je pense à, parce qu'il y a, oui, il y a des réalisateurs de cinéma muet qui faisaient venir un orchestre sur le plateau pour mettre les acteurs dans le mood. Et
vous-même, vous écrivez en musique ?
Pas du tout. Dans un silence total.
Benoît ?
Oui, vous avez déclaré que faire de la mise en scène, cela vous abîmait parce que vous doutiez trop. Quel type de doute vous avez et à quel endroit quand vous mettez à la mise en scène, Guillaume Canet ?
Quelques mois avant la préparation, c'est-à-dire qu'entre l'écriture, qui peut être assez facile et passionnante, à partir du moment où on démarre la préparation, on a toujours cette question, enfin moi j'ai toujours cette question de savoir est-ce que je vais savoir faire un film, est-ce que je vais savoir mettre en image ce que j'ai en tête, diriger les comédiens comme je le souhaite, réussir à retranscrire tout ce que j'avais dans la tête. Voilà, c'est des doutes... Mais je pense que c'est des doutes aussi qui font avancer. C'est pas des doutes paralysants. J'ai jamais été dans une angoisse qui me terrifie au point d'être handicapé. Mais c'est pas forcément très très agréable. Et donc c'est pour ça que je disais que je me satisfais rarement de mon travail.
Avant la réalisation, il y a eu la mise en scène au théâtre, même très rapidement. Quelle est la première que vous ayez signée ?
C'était une pièce de Vaclav Havel qui s'appelait Vernissage.
Pendant que vous jouiez au théâtre, hein, c'est ça ?
Bah, je jouais au théâtre Héberto et juste à la fin, en fait, j'avais demandé à Félix Asco, qui était le directeur du théâtre, il y avait ce hangar derrière à décor qui était complètement à l'abandon, qui n'existait pas. Et je lui demandais si je pouvais mettre en scène une pièce dedans. Et donc, j'ai tout fait. Je faisais la caisse, les lumières, le décor. Et j'ai fait cette mise en scène et on a créé en fait le Petit Héberto, le théâtre Le Petit Héberto qui est derrière. Voilà.
Pourquoi avoir choisi pour ce premier geste de mise en scène un texte de Vaclav Havel ?
Parce que je l'avais joué en fait en cours de théâtre et j'avais adoré ce texte. Et je me rappelle, j'avais même écrit à Vaclav Havel qui m'avait répondu gentiment et qui m'avait autorisé en fait à jouer cette pièce. Et voilà, c'est un grand grand souvenir parce que j'avais tout fait moi-même et j'étais très très fier qu'on ait pu jouer ce spectacle. Il n'a pas été un grand grand succès, mais on avait été jusqu'à Rungis chercher des palettes qu'on avait recouvert de moquettes pour faire les gradins, et c'était un grand moment.
Et renouveler le travail de mise en scène au théâtre, c'est quelque chose qui vous intéressait ?
Ouais, j'aimerais vraiment beaucoup. Un jour, Jean Rochefort me dit sans arrêt, attends, tu feras du théâtre quand tu seras vieux et flétri.
Quelle idée du théâtre cela donne.
En me disant, tant que tu es filmable, reste au cinéma. Et donc, je vais attendre d'être un peu plus flétri avant de faire du théâtre.
19h20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau double avec vous, Sylvie Granotier, romancière, scénariste, actrice, traductrice, vue au cinéma et à la télévision depuis le début des années 80, auteur de romans depuis le début des années 90. Alors après avoir signé un épisode du Poulpe et quelques romans dans la célèbre série noire de Gallimard, vous êtes depuis une douzaine d'années l'une des auteurs attitrés de la collection Spécial Suspense d'Albin Michel. Et vous signez Personne n'en saura rien, un nouveau thriller psychologique et judiciaire. C'est l'histoire d'un procès, celui de Jean Chardin, délinquant sexuel récidiviste, violeur et tueur de jeunes filles, qui se retrouve confrontée au palais de justice à la dernière de ses victimes, Isabelle, qui, contrairement aux autres, s'en est sortie vivante. Mais lui, comme elle, ont un secret en commun et personne n'en saura rien. Alors ce roman vous permet d'écrire sur la vengeance, un thème qui est celui du thriller par excellence, un thème qui vous intéressait mais que vous souhaitiez d'abord d'aborder de façon souterraine. Quel suspense cela vous permettait-il de travailler ? Pourquoi de façon souterraine et non pas frontale ?
Parce que tout est un peu compliqué dans cette histoire. Parce que il y a plusieurs strates qui se sont accumulées. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait ce que j'avais observé une fois dans un procès, c'est-à-dire une toute jeune victime qui avait décidé de ne pas l'être Et c'était un acte de liberté qui me rappelait les grands actes de liberté des gens qui survivent dans des conditions inouïes et qui trouvent cette force parce qu'ils disent que l'autre ne va pas déterminer qui ils sont et ce qu'ils font.
Et que l'autre ne va pas détruire leur vie.
Jamais, voilà.
C'est
et
ce ça, dit dans
et
le roman.
Cette espèce de gros porc, elle, décide qu'il ne changera rien à sa vie. Ce qui, de la part d'une jeune fille, enfin de n'importe quelle personne, est déjà assez sidérant. Et après, quand l'histoire se met en route, alors je suis une grande fan d'Alexandre Dumas. Et comme tout le monde, je pense, j'espère, du Comte de Monte-Cristo, qui est une des plus belles histoires de vengeance, et j'aimais bien l'idée de la vengeance. Et tout d'un coup, je me suis dit, si en plus d'avoir survécu, alors qu'elle aurait dû mourir, elle met en route une vengeance, mais qui est cachée, c'est-à-dire que personne ne voit venir, et surtout pas lui, alors là, ça commence à bien m'exciter. Ouais.
Alors, ce n'est pas trop révélé de l'histoire que de dire que l'agresseur comme la victime mentent. Tous les deux, on s'en rend compte assez vite. Ce qui, de fait, donne un statut particulier à la victime et aussi à son agresseur, puisque l'agresseur devient potentiellement en retour victime de son agressé. Qu'attendiez-vous d'un tel renversement, Sylvie Grignotier ?
J'attends. Quand je commence à écrire, ça m'a fait rire, parce que alors, le côté doute, c'est atroce quand même. On commence un roman, on en a 14 derrière, et on dit oh, « mais est-ce que je vais savoir comment ça se fabrique ?» Alors, j'en suis franchement pas à attendre quoi que ce soit, mais je crois que j'essaye plutôt de... Enfin, il y a eu plusieurs choses. J'ai eu une espèce, comme disent les Américains, d'épiphanie, un jour dans un tribunal, puisque j'ai beaucoup fréquenté les tribunaux ces dernières années.
Manifestement, oui.
Oui, il se passe des choses, mais démentes, quoi. C'est un théâtre de la vie, mais de la vie réelle. Et tout d'un coup, j'ai eu cette vision d'un acte de violence, un énorme acte de grosse violence... disperse des vies, les fait, mais vraiment, les explose, littéralement. Et je me suis dit, si j'arrivais dans un roman à réunir toutes ces vies que la violence a dispersées, pour leur donner une cohérence. C'est pour ça qu'il y a l'axe du procès, mais il y a les témoins, il y a la victime, bon, il y a l'accusé qui joue en plus gros, puisque c'est des années et des années de prison, mais il y a les familles. C'est-à-dire, c'est comme... une pierre qu'on jette à l'eau et puis ça n'en finit pas de se réverbérer. Donc j'étais à la recherche d'un peu tout ça et ce qui était compliqué, c'était de trouver la construction qui permettrait de faire des sauts dans le temps, ce qui est une de mes obsessions, c'est-à-dire être au présent tout le temps et réunir le passé et le présent et éventuellement ce qui va en arriver. Et puis après, à l'arrivée, je me dis « ah ben voilà ce que je voulais raconter, mais je ne le sais pas quand je commence en fait ».
Guillaume Canet, quel lecteur de polar êtes-vous ? Vous qui avez travaillé sur le genre plusieurs fois, à la fois comme acteur et comme réalisateur.
Oui, d'abord, ça me donne très très envie de lire celui-ci. Je ne suis pas un grand consommateur de polar, plus de films que de polar. Moi, j'ai cette fâcheuse tendance à, si quelque chose me plaît, à vouloir l'imager tout de suite. Donc le problème, c'est que ça, c'est un peu une angoisse pour moi quand je travaille sur quelque chose de lire une autre histoire. J'ai toujours peur en lisant un polar que je vais avoir envie de, ça me donne envie de le réaliser tout de suite et de rentrer dans cette histoire.
Et de gommer le film que vous êtes en train de travailler.
Et de l'imager. Et ça m'est arrivé d'ailleurs, si on ne le dit à personne, j'étais en train de travailler sur un projet qui me plaisait beaucoup et quelqu'un de la production en fait m'a offert le livre en me disant tiens lis ça fait vraiment c'est vraiment on voit un film quoi et effectivement j'ai arrêté le projet que j'avais quand même commencé à travailler sur lequel j'avais commencé à travailler donc mais c'est vrai que ça donne très très envie.
Est-ce que votre expérience de comédienne vous aide à écrire sur ces histoires de mensonges, de faux semblants et de doutes ? Je vous pose cette question parce que dans Tuer n'est pas joué, un précédent roman, vous racontiez l'histoire d'un comédien menteur professionnel et qu'ici le personnage d'Isabelle étudie l'art dramatique et que l'avocate qui doit défendre la jeune femme doit passer à un casting vis-à-vis de la victime. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de dramaturgie qui se met en place chaque fois. Est-ce que véritablement cette expérience de comédienne est une sorte de sous-texte pour comprendre la façon que vous avez d'écrire ?
Non, ce qui est certain, je le vois quand je parle avec d'autres personnes qui écrivent, c'est que quand je disais que j'étais du côté des personnages, c'est vrai que je les prends tous en charge le plus honnêtement possible à chaque fois et sans trop d'a priori. Quand je commence un roman, ils sont un peu, je sais pas exactement ce qu'ils vont être et j'apprends à les connaître au fur et à mesure que j'écris. Et c'est vrai que Tuer n'est pas joué, je l'ai porté longtemps parce que je rêvais de faire un roman où je puisse parler du travail de l'acteur et en même temps être dans une intrigue policière. Alors les clichés qui arrive d'abord, c'est énorme, c'est des vagues déferlantes, on se dit bon d'accord, non, non, non. Et puis un jour, je me suis dit, un acteur qui s'accuse d'un meurtre, hein, et que personne ne veut croire alors qu'on le croit, quoi que ce soit qu'il joue. Et là, je savais que j'avais un démarrage. Mais disons que c'est plus dans la façon dont je construis les histoires autour des personnages. C'est ça qui m'intéresse d'abord.
Dans un questionnaire pour le magazine Elle, paru il y a une dizaine d'années, on a nos dossiers, à la question « Si vous étiez un meurtrier », vous répondiez Billy Milligan, violeur soupçonné de meurtre, atteint de troubles de la personnalité. Qu'est-ce qui vous intéressait avec un tel personnage pour le citer dans ce questionnaire?
Vous connaissez le...
Non. Pas l'histoire.
Billy, je vais pleurer peut-être simplement de l'évoquer, c'est dingue. L'effet que m'a fait Steve, mais je pense qu'il touchait à quelque chose de très profond. Billy Milligan est la seule personnalité multiple connue et démontrée de... Il avait 26 personnalités. Il a commencé à la petite enfance et à chaque fois qu'il était confronté à des situations beaucoup trop lourdes pour lui, un autre prenait la place. Et ils ne se connaissaient pas tous entre eux. Donc, c'était des vies morcelées. Et avec ces vies morcelées, un de ces personnages était un peintre de grand talent. Un autre parlait le latin classique. Personne n'a jamais su comment. Un autre était anglais. Donc, un jour, l'Américain se réveillait en Angleterre. Et le plus filou de tous, celui qui se démerdait le mieux, petit à petit, réunissait, disait « Toi, oui, endors-toi, toi, fais ci, toi, fais ça. » Et il y en avait un qui était une femme.
Il avait
et la femme violait.
Hein, Guillaume Canet est en train de se faire ce film.
Il avait quel âge?
Cameron. Il y a un scénario qui a circulé sur Internet. J'ai des amis qui savent ma passion pour ce personnage. Et il avait réussi à l'adapter. Il avait fait un très beau scénario qu'apparemment, il n'a pas réussi à monter.
Il avait quel
Quand
âge
il a été arrêté pour viol, il devait avoir une trentaine d'années. Et ce qui est terrible dans son histoire, c'est que... Il avait été mis entre les mains de psychiatres qui avaient donc décelé progressivement toutes ses personnalités. Et le journaliste qui a écrit le livre était allé le rencontrer. Et puis on l'a mis en semi-liberté. C'était dans un de ses étages en Texas où il y a eu un tollé général. Et du coup, ils l'ont remis en prison. Et la fin du livre, Billy Milligan disait « On est en train de s'endormir les uns après les autres ». Et on avait l'impression d'un suicide en tuant un après l'autre, après l'autre. Et voilà, bon, c'est une histoire qui m'a énormément touchée. Et qui, en même temps, sur les potentiels humains, c'est-à-dire toutes les personnes qui peuvent cohabiter, on ne les connaît pas tous, mais on en a tous plein, à mon avis.
Ça a l'air de vous passionner, ça, Guillaume Canet.
Ouais, bah oui, ouais, ça a un sacré rôle aussi.
Même jouer jusqu'à jouer une femme.
Ouais, bah oui, oui, oui.
Et vous, si on était dans le magazine Elle, il y a une dizaine d'années, que je vous pose la question, si vous étiez un meurtrier, vous seriez qui? Et après, on va vous libérer. Parce que vous avez une avant-première.
Oh là là, je ne sais pas. Je ne sais pas, franchement, j'ai beaucoup de mal à sortir de ce personnage. Donc, je dirais Franck Noir, le personnage que j'interprète. C'est pas du tout un coup de promo, c'est que réellement, c'est un personnage qui m'a totalement fasciné, vraiment.
Et qui vous manque d'ailleurs, on a pu lire dans un entretien.
Ouais, enfin, pas qui me manque, mais c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de pas juger un personnage qu'on joue, c'est très important, essayer de s'en rapprocher. Je dis ça avec énormément de respect pour les victimes et les familles des victimes, mais moi, il a fallu que j'essaie de comprendre ce personnage et donc, du coup, de me rapprocher de lui, quoi.
On vous libère.
Merci.
Le mot
vous.
Est très fort.
Merci
pour quelqu'un qui joue un assassin.
Pour un meurtrier.
Merci Guillaume Canet.
Merci
et bonne avant-première.
Bon succès. Oui.
Ouais, merci beaucoup.
Benoît.
Sylvie Granotier, vous aviez dans les deux précédents livres ancré vos récits dans la Creuse. Le but, j'ai pu lire, c'était répondre à une remarque de Jacques Bonafé qui vous avait demandé « Mais pourquoi vous ne décrivez jamais les paysages dans vos romans ?» Comment vous êtes expliqué cette réflexion de Jacques Bonafé?
C'est vrai que les descriptions, littérairement parlant, sont souvent liées au roman du 19e où c'était nécessaire puisqu'on n'avait pas l'image. Hein. Les gens voyageaient moins et ils n'avaient pas la télé. Donc il y avait une raison d'être. Et je me rends compte que progressivement, l'intrusion de l'image dans nos mondes fait que beaucoup d'écrivains, en tout cas, surtout dans le polar, on est dans le récit, on est dans l'ambiance, on est dans l'atmosphère. Moi, je suis donc beaucoup dans les personnages et leur psychologie. Et tout d'un coup, de me dire, mais ça me semblait un défi incroyable, raconter des paysages de façon qu'ils ne soient pas ennuyeuses, puisque le principe des auteurs de polar, c'est ne pas ennuyer son lecteur. C'est un peu le dogme de base. Et, Et du coup, il y a une j'ai une passion pour la Creuse, qui est une région d'adoption. Enfin, je sais pas, je crois qu'elle m'a un peu adoptée, mais en tout cas, moi, je l'ai adoptée, c'est sûr. Moi, qui n'ai pas de racines du tout. Et une des choses que m'a apprise la Creuse, c'est à regarder. Tiens, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Je suis allée ailleurs beaucoup.
Vous êtes née en Algérie. Vous avez vécu aux États-Unis.
J'ai vécu en Afghanistan, au Brésil. Enfin, dans beaucoup d'endroits. Et c'est comme si ma vie avait été une recherche permanente d'autre chose. Et puis, tout d'un coup, de se poser, de parler avec un voisin qui a une ferme, qui est là depuis qu'il a 14 ans, et qui me dit « Vous avez vu la lumière, là ?» Et de se dire le même paysage, jour après jour, selon la lumière, l'humeur, la saison, voilà. Et donc là, je m'étais fixée, parce que ça me semblait très très difficile, mais très très beau, c'est l'automne dans la Creuse qui est absolument somptueux. Donc je me promenais en forêt, mais là vraiment je regardais, en me disant comment est-ce qu'on peut décrire ça, ces sensations, cette luminosité. Et ça a ouvert quelque chose, indéniablement.
On a même le sentiment que la Creuse vous a réconcilié avec la France, parce que je sais que pendant longtemps vous l'avez rejetée, et même votre rapport à la langue française est assez complexe, car à un moment de votre vie, vous avez non seulement rejeté la société française, mais aussi sa langue qui semblait, je vous cite, « concrétiser tous les ostracismes ». Qu'est-ce qui se passait avec la langue et la société française, Sylvie Granotier ?
Je crois que je l'ai analysé beaucoup plus tard. Je l'ai vécu d'abord quand je suis rentrée du Maroc. J'avais pourtant vécu à Paris avant, hein, mais j'étais adolescente, j'étais dans un lycée et j'ai rien compris pendant un an. J'ai rien compris au fonctionnement entre les personnes. Je me faisais des amis facilement et là, je me sentais observée et j'ai fini par comprendre cette chose toute bête, mais qui, je pense, clairose terriblement notre société, surtout parisienne, c'est les classes et les codes. Les codes sont constants. Et la langue, la langue partout, dans tous les pays du monde, est un instrument de pouvoir, plus exactement. Or, la langue française, elle a une grammaire extrêmement rigide. On a toujours envie de la faire péter aux coutures, mais c'est extrêmement difficile. Et pour moi, ça, quand j'ai vécu aux États-Unis et que j'ai commencé à vraiment parler très bien américain et à m'imprégner de la culture américaine, c'est comme si j'avais vu dans mon enfance les émissions qui passaient à la télé dans les années 60, tellement je me suis immergée là-dedans et j'avais un sentiment en parlant américain d'une libération de la langue et de moi-même. Et si on revient sur le roman, je peux en parler, mais la liberté pour moi, je pense, est quelque chose d'essentiel. Et je voyais le français comme un carcan. Et il m'est arrivé d'intervenir dans des quartiers dits difficiles, etc. Et de dire aux gamins, ils le comprennent très bien, ça. De dire, c'est vachement chouette, votre verlan, machin, truc. Mais il faut parler la langue des autres. Si vous ne parlez pas la langue des autres, vous serez enfermé dans votre ghetto. Donc il faut,
Vous avez non seulement parlé la langue des autres, mais vous l'avez même traduit.
Oui, parce
Benoît.
Que c'est aux États-Unis que vous découvrez l'écriture, et notamment par l'œuvre de Grace Paley, que vous avez traduit en France, auteure de nouvelles, poète, activiste, militante contre la prolifération nucléaire, contre la guerre au Vietnam. Vous l'avez rencontrée, quels échanges vous avez pu avoir avec elle?
Vous savez, comme dans les anciens trucs du Reader's Digest, la femme qui a changé ma vie, elle a changé ma vie. J'ai travaillé sur ses nouvelles pendant un an et demi, par amour, parce qu'elle n'était pas à l'époque publiée en France. Et on lui a envoyé, c'était une petite maison d'édition au départ, on lui a envoyé ma traduction et elle a dit d'accord, parce que son mari qui était poète parlait le français, enfin lisait le français. Donc déjà, parce que c'est dur de traduire quelqu'un qu'on aime tellement, parce que c'est d'abord un auteur vraiment que je vénérais, quoi. Et justement, quand on parle de la souplesse de la langue, alors elle a une oreille, mais absolument démentielle.
Et cette traduction, ça a libéré pour vous l'écriture ?
C'est sûr, et elle, et la personne, parce qu'elle est venue à Paris pour répondre à votre question, et elle était à l'hôtel, et puis elle est venue chez moi, j'avais un tout petit appartement rue du Dragon, puis elle est venue, elle m'a dit « Oh, j'aime bien votre appartement ». Bref, elle s'est installée chez moi pendant 15 jours. Alors vous êtes avec une espèce d'idole, et c'est « pince-moi, je rêve ». Et effectivement, c'est nos conversations, surtout, qui m'ont autorisée à écrire.
Dernière question autour de ce son que vous nous avez apporté, Sylvie Granotier.
Third man. The story of two men and one woman caught in the dangerous web of an international love affair.
Identification de ce son est la raison pour laquelle vous nous l'avez demandé. Alors, c'est nous qui vous l'avons demandé, mais vous avez accepté.
C'est le troisième homme. J'avais 12 ans, donc on était encore au Maroc, et j'ai vu le troisième homme. Et l'apparition d'Orson Welles dans la porte avec la lumière du réverbère sur lui, cet œil brillant, ce petit sourire, je crois que c'est ma première émotion érotique, puissante.
Dernière question, Benoît.
Oui, dans un article, vous expliquez qu'à la sortie du conservatoire, un ami vous décrit, je cite, « comme un mélange de Greta Garbo et d'un veau humide
». C'était vraiment un ami?
Non, mais j'étais tombée là-dessus. Il l'avait écrit à quelqu'un et j'étais tombée là-dessus. Et sur le moment, je me voyais plus Greta Garbo que veau humide, évidemment. Quoique, et c'était d'une justesse.
Un veau humide?
Oui, mais en anglais, ça marche mieux. Wet calf. Ça marche vachement mieux en anglais. C'était tendre. On est en train de s'endormir les uns après les autres.
Merci à nos invités. Guillaume Canet, La prochaine fois, je viserai le cœur, sera en salle dès demain. Sylvie Granotier, Personne n'en saura rien, apparu chez Albin Michel. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain. Demain, théâtre avec le metteur en scène Joss de Pau et piano avec Philippe Cassard. Là des annonces, c'est Adrien.
C'était Le Rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagane, Adrien Nazelli et Hippolyte Babilotte, Journal de la Culture, Zoé Sfez, à la technique Alex Dang et Jacques Hubert, à la réalisation Thomas Beau. Vous pouvez réécouter, télécharger, podcaster et commenter cette émission sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDV.
Il est 19h54, vous écoutez France Culture, c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bon 11 novembre à tous.